Ce soir, on va faire une petite étude sur que faire envers ceux qui vous font du mal. Là-dedans, il y a plusieurs points qu'on va regarder ensemble là-dessus. Ben, pas plusieurs dans le sens bien des versets, mais Jésus, dans certains versets, il dit bien des choses à faire qui va faire que on va être dans le bon chemin en faisant cela. Parce que, des fois, comme on dit, on veut faire ça à notre manière, puis on réagit à notre manière, puis on pense que c'est bon. Mais des fois, le Seigneur a déjà dit comment faire dans sa parole, puis c'est là-dessus qu'il faut se baser si on dit qu'on bâtit notre vie sur la parole de Dieu. Si on veut être des gens qui disent qu'on obéit à la parole, qu'on bâtit notre maison sur le roc qui est la parole, mais il faut consulter ce que Dieu dit là-dessus. On va voir qu'il y a quatre choses à faire pour ceux qui nous font du mal. Parce que moi, d'après mon humble expérience dans cette vie, toute notre vie, on va rencontrer des gens qui nous font du mal. Mais d'apprendre à réagir de la bonne façon, comme le Seigneur le demande. Puis là-dedans, c'est sûr, dans un des points, c'est la prière. Mais c'est plus que ça que Dieu s'attend de chacun de nous. Jésus enseignait à ses disciples comment réagir dans l'adversité. Puis c'est même au point ce qui était rendu là, dans sa pensée, puis de la manière qu'il amenait ça à ses disciples, il allait de la manière contraire à la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse avait déjà un mode de vie d'expliquer comment faire de réagir dans telle et telle façon. Puis Jésus, à ses disciples, lui enseignait une façon révolutionnaire qui, en fin de compte, ça fait pas plaisir à tout le monde. Parce que la manière qui était expliquée dans la loi, ça fait plus l'affaire aux gens qui sont charnels, aux gens qui sont capables, qui sont un petit peu, qui se pensent bons. Tu sais. Là, on va voir, on va comprendre qu'est-ce que Jésus a dit là-dedans. Dans Matthieu 5, le verset 43. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Quand il a dit ça, c'est parce que tout le monde entendait la loi, puis la manière qui était écrite de réagir dans l'Ancien Testament. Ils avaient appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Là-dedans, comme je vous disais tantôt, les disciples avaient appris une manière de vivre par les pharisiens, par la loi. C'était une manière qui était juste. D'aimer notre prochain, ça existait déjà, ça, dans l'Ancien Testament. Ça a été repris dans le Nouveau, puis il a dit que c'était un des deux plus grands commandements d'aimer son prochain. Mais il y avait un autre point qui disait que tu avais le droit d'haïr ton ennemi, de ne pas l'aimer, tu avais le droit même de le tuer dans l'Ancien Testament. Jésus, lui, comme je disais, il a amené de quoi qui est complètement révolutionnaire. D'aimer notre prochain, ça c'est déjà un point qui est difficile, parce que là, il fallait qu'il parte avec l'idée, faut que t'aimes même ceux qui sont tes ennemis. Dans les différents points qui parlent de persécution ou de problèmes qu'on rencontre avec les autres, c'est qui se font du mal? Quand il dit des ennemis, c'est des personnes qu'on haït, qu'on pouvait haïr, mais qui étaient des gens haïssables, des gens odieux, des gens hostiles, des gens qui s'opposent à qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut faire. C'était ça un ennemi selon la pensée biblique dans ce temps-là. Dans le dictionnaire Strong qu'on voit ça. Des personnes qui s'opposent ou essayent de nous arrêter dans ce qu'on veut faire. Ou des personnes qui sont haïssables parce qu'ils réagissent mal, puis là, ça nous tape ses nerfs. Puis ils sont hostiles, ils sont méchants, ils peuvent nous blaster, puis ils peuvent nous faire du mal, comme, mettons, un autre peuple qui désirait combattre Israël, ça devenait automatiquement des ennemis. Fait qu'eux autres, ils avaient le droit de les combattre, puis de les tuer. Mais dans Jésus lui amenait une autre version. Il dit, aimez vos ennemis. Il y a tiens, amen là-dessus. Ça, là, même pour nous, hein, même pour nous, c'est pas facile. Qu'on est dans une société qui est quand même vive et laissée vivre, on se respecte, on échange des opinions différentes, mais on se frappe pas à cause de ça. Mais eux autres, dans ce temps-là, pouvaient se frapper à cause qu'ils n'étaient pas de la même pensée, puis que, mettons, les pharisiens et les sadducéens, ils s'aimaient. Ils s'aimaient pas, là. C'était pas des chums, puis ils se fraternisaient pas. C'était du monde qui, vu que tu penses pas pareil, ça crée des sectes. C'est pour ça que Paul en a parlé dans le Nouveau Testament, que c'est des œuvres de la chair, des sectes. Quand tu cherches des divisions avec d'autres, puis il dit de pas discuter ses opinions, c'est parce que ça crée des chicanes. Puis ceux qui causent de l'hostilité comme ça, à cause qu'ils aiment s'ostiner avec les autres, puis ils sèment le trouble partout où ils vont, ils sont appelés des gens charnels. Dans le Nouveau Testament, il veut qu'on apprenne à s'aimer, malgré que ça sera quelqu'un qui sera en opposition contraire à ma pensée, à ma volonté, à mes désirs, ou même s'il est hostile, ou même s'il est haïssable. Il fait pour se faire haïr, faut que je l'aime. Un autre point que Jésus dit, ceux qui vous maudissent. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Maudire, là, dans le sens d'Armstrong, c'est condamner. Ou appeler le mal sur quelqu'un. Quand tu maudissais quelqu'un, c'était pour y souhaiter du mal, puis y envoyer du mal. C'est comme un sort. Qu'est-ce que les sorciers puis ceux qui ils font des sciences occultes lancent des sorts, ils appellent des malédictions sur les gens, c'est ça. Puis il dit même si toi en tant que chrétien, tu t'aperçois que quelqu'un veut te faire du mal par ses mots ou par même s'il voudrait le faire, faut que tu le bénisses. Bénissez ceux qui vous maudissent. On continue encore dans là on parlait d'ennemis, de ceux qui maudissent, puis il dit ceux qui vous haïssent. Il dit faites du bien à ceux qui te haïssent. Parce que là, il dit toi, aime ton ennemi, mais s'il y en a un que lui t'haït, parce que pour une raison, peut-être juste parce que t'es chrétien, il veut t'haïr, ou t'as dit quelque chose, t'as fait de quoi qui pourrait te faire que tu te fasses haïr. Il dit encore que se faire en face à lui, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux qui t'haïssent, c'est ceux qui te poursuivent avec haine, ceux qui te détestent, ceux qui t'ont en horreur, ceux qui trouvent que t'es un objet de haine. Mais si t'es détesté, en fin de compte, pourquoi que t'es détesté? Bien, toutes sortes de raisons, peu importe la raison, il dit à nous de réagir en faisant du bien. Un autre point dans ce même verset-là, il parle de ceux qui te maltraitent. Te maltraiter, ça pouvait être de t'insulter, de te traiter d'une façon injurieuse, ça veut dire qu'il te dit des insultes, il te traite de nom. Puis au sens judiciaire, c'est ceux qui t'ont accusé faussement, c'est d'être maltraité, ça. Ou te menacer, ou te calomnier. Ceux qui te disent du mal de toi dans le dos pour essayer de te rabaisser, pour te démolir ta réputation. Peu importe le genre de maltraitance, verbale ou physique, Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et persécute, parce que là, il a aussi ajouté maltraite et persécute. Ça, c'est faire courir ou faire s'enfuir quelqu'un, amener la fuite. Quand il te persécute, ça veut dire qu'il court après toi pour te faire du mal. C'est quand que c'est arrivé, on a vu le peuple en Syrie, les chrétiens qui se faisaient poursuivre par l'armée. Puis là, les chrétiens, tu les voyais, ils étaient finement en train de courir puis se sauver parce que les autres couraient après pour les pogner. Il y en a qui ont réussi à monter dans les hélicoptères puis s'en aller, mais les autres, on n'a plus jamais entendu parler. Mais ça, c'était ça le sens visible là, de te faire persécuter, c'est de faire courir après pour te faire courir ou pour te rattraper, ou te poursuivre, ou pour te harceler, te troubler, te molester, c'est de la persécution, pour te faire du mal. Jésus dit, prie pour eux autres. Nous sommes appelés à réagir avec amour, en bénissant, en faisant du bien, puis en priant pour les personnes qui sont méchantes. En réalité, là, pour le chrétien, il n'y a pas de raison qu'un chrétien dise des insultes à quelqu'un ou qu'un chrétien haïsse quelqu'un ou un chrétien veuille se revenger contre quelqu'un. Jésus dit aussi dans un autre passage que Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Puis la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire, même si on se met en colère et on se revengerait, ça accomplit pas la justice de Dieu. Dieu veut qu'on réagisse avec amour. Puis il y a des raisons pourquoi que Jésus nous dit cela. On est appelé à réagir comme notre Père qui est dans les cieux agit. Dans Matthieu 5, 45, parce que c'est dans le même texte, là, il dit, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, puis il fait pleuvoir sur les justes puis sur les injustes. Comme je l'ai dit à la réunion samedi, j'ai dit que les gens qui sont sans Dieu dans la vie sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça n'empêche pas que Dieu exauce quand même des prières de ces gens-là. Même s'ils sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu, sont privés aussi des promesses de Dieu, ils reçoivent quand même des exaucements de prière. Ils veulent du beau temps, ils veulent de la pluie, Dieu les exauce. Dieu fait du bien même aux méchants, jusqu'à temps qu'il neige jusque-là, puis que là c'est l'heure du jugement. C'est sûr que Dieu, il s'empêche pas de faire ses jugements. Mais en général, Dieu est amour, puis Dieu veut que les personnes se repentent. Fait que c'est en lui faisant du bien qu'ils vont se repentir. Puis c'est de même qu'il veut qu'on pense aussi. En réagissant comme Dieu nous le demande, ça nous apportera des récompenses de Dieu. Parce que dans Luc 6, 35, ça dit encore, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » Puis votre récompense sera grande, puis vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voyez-vous, il nous promet même de grandes récompenses si on réagit de la bonne façon, comme Jésus le demande. Faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal, ça peut l'amener à se repentir. Si le gars nous fait du mal, puis nous, on y répond avec du bien, ça peut l'amener à sa repentance. Le contraire de ça, s'il me frappe, puis moi, je le frappe, là, ça ne l'amènera pas à s'excuser, ça ne l'amènera pas à se repentir, ça va l'amener peut-être à m'en vouloir deux fois plus, parce que j'y en ai donné un, puis là, il va vouloir m'en redonner un autre. Mais le pardon, les prières, de bénir les gens, puis de lui souhaiter du bien, que le contraire de les maudire, là. Mais ça nous amène que, premièrement, on va amener plus la paix dans la situation, parce que ça dit d'une parole douce calme la fureur. Si on apprend à réagir avec des paroles douces, ça va calmer des gens qui sont en colère. Mais si tu réponds de la même chose qu'ils te répondent, c'est sûr, ça règle rien. Faire du bien à quelqu'un, ça peut l'amener à se repentir. On voit ça dans Romains 12, 20. Ça dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. » Puis c'est Paul, quand Paul a dit ça, c'est Paul qui a dit ça dans Romains. Il voulait pas dire que le feu va lui poigner dans la tête, là, les charbons ardents, c'est pas quelque chose de physique, là. Le charbon ardent, dans le dictionnaire biblique, là, c'est une expression, c'est un proverbe qui signifie que l'on impose à un ennemi le souvenir du mal qu'il nous a fait, puis ça va lui donner l'impression d'avoir des charbons ardents sur sa tête. Ça va l'amener à se repentir. Puis les Arabes appellent une peine mentale très lourde. Ils appellent ça une peine mentale très lourde, les charbons ardents sur le cœur. C'était une expression qui existait dans ce temps-là. Puis quand tu réponds par le bien, ça amène le gars à prendre conscience plus de son mal qu'il a fait, puis ça va l'amener à réfléchir, puis à vouloir changer de manière de réagir. Fait que Paul, quand il écrit ça, lui, il connaissait cette pensée-là, puis c'est ça qu'il veut nous enseigner à penser. Ça va être plus profitable pour la personne de se faire réagir en bien qu'en mal. Le fait de se tourner en prière, parce qu'il dit aussi, « Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent », c'est afin que Dieu nous délivre du mal envoyé par le malin. Parce que quand les esprits s'échauffent, surtout quand on n'a rien fait, si on l'a mérité, ça c'est une autre affaire, mais si on n'a rien fait, puis le monde nous en veut juste parce qu'on est des personnes droites, des personnes justes, des personnes chrétiennes, on aime le Seigneur, on fait le bien, puis là, ils nous haïssent pour rien, comme ils ont haï Jésus sans cause. Mais ça peut arriver que nous aussi, ils peuvent nous haïr pour cela. On se met à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Mais dans Matthieu 6,13, c'est ce que Jésus avait enseigné à ses disciples dans la prière du Notre Père. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire, cette épreuve-là que tu es en train de vivre, que la personne est après toi, puis elle veut te sauter d'en face parce qu'elle t'haït. Mais là, c'est la prière qui est efficace pour être délivré de la tentation de réagir, puis de sauter d'en face nous autres aussi, puis de délivrer de la situation que le malin a montée. Parce qu'en faisant du bien, c'est pas le Saint-Esprit qui veut nous attaquer, là. C'est le malin à travers de ce gars-là. Fait que la prière du Notre Père, elle revient dans la même idée qu'il a dit de prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est parce que tu vas recevoir une délivrance du Seigneur, puis ça va être positif, la situation, par après. Tu regardes le mot « le malin » qui est là, là. Le mot que là, il a le sens de « rempli de contrariété » ou de « privation », ou ça veut dire « pressé » et harassé par le labeur, parce que même te sentir mal, c'est comme tu te fais quasiment sentir en oppression, ça vient du malin, c'est ce qu'ils veulent dire. Ça a pas, quand tu vis des difficultés, des périls, ou que c'est un temps de plein de périls pour la foi chrétienne, ben où ça te cause des peines puis des difficultés, c'est un mot-là, malin, il veut tout dire ça. Ça veut dire aussi que c'est mauvais, t'es dans une situation mauvaise, t'as une condition mauvaise, ta vie, ça va mal, c'est encore comme, pas juste un esprit malin, mais c'est comme si tu te sens mal. Ben, en réalité, ça fait partie de ce mot-là que là, délivre-nous du malin, ça voudrait dire aussi délivre-nous de toute sensation, sentiment, ou possibilité de mal qu'on peut être en train de subir, de souffrir. Puis dans un sens physique, c'est morbide ou aveugle, ou dans un sens moral, c'est méchant ou mauvais. Délivre-nous du méchant ou délivre-nous du mauvais. C'est sûr que ça sous-entend le diable aussi. Le mot est utilisé au nominatif qu'ils disent dans ce texte-là. Ceci dénote en général un titre grec, puis lorsque le Christ dit « délivre-nous du malin », ça se réfère probablement à Satan. Ça se réfère à Satan qui te fait du mal, mais que ça soit dans tes pensées, dans tes émotions ou dans ton corps, ou fait par des gens, peu importe la situation. C'est des situations de mal, puis dans la prière, tu demandes à Dieu de te délivrer du malin, c'est « délivre-moi du mal ». C'est en prière que tu vas t'en sortir. Notre bonne conduite envers les gens, ça peut les amener au Seigneur. C'est ce qu'on voit dans 1 Pierre 3 quand on parle du rôle de la femme envers un mari qui est sévère, mettons, qui est pas chrétien. Mais que la femme, ça dit, femme, c'est un exemple entre autres, là, mais c'est pour démontrer que sa bonne conduite peut l'influencer à vouloir même se convertir. Ça dit, femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, si tu pognes un gars qui est pas chrétien puis il obéit pas à la parole, mais il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Fait que bien réagir dans les situations peut amener même des gens à se convertir. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ça veut dire, s'il y a une manière de vivre que tu peux agir en chrétien dans des situations qui peuvent faire un impact bien plus grand que si tu réponds avec la bouche de tes canons. La même affaire, tu sais, répondre au le mal par le mal, mais c'est sûr que tu n'avanceras rien, tu ne gagneras aucun point. Mais le faire pour le Seigneur, le bien pour le mal, mais là, c'est là que tu peux même penser qu'il pourrait être sauvé, se finir par être sauvé. Il va se repentir. Le Seigneur nous dit que les prières sont efficaces pour obtenir justice au milieu de l'injustice. Parce que si tu ne réagis pas en méchant, ça devient une injustice. Il te frappe sur une joue, là. Il t'a frappé. C'est déjà contraire à la loi qu'on frappe quelqu'un. Puis si tu réagis pas, ça devient une injustice. Si tu te mets en prière, le Seigneur a dit qu'il va faire promptement justice à ceux qui crient à lui. Fait qu'on a tout intérêt à apprendre à prier pour nos injustices au lieu de chercher à se revenger par nos propres moyens. Dans Luc 18, le verset 6, ça dit, le Seigneur ajouta, c'est dans la parabole le juge inique, un juge méchant, il dit, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous, la foi, dans ce contexte-là, c'est pas juste la foi, pour transporter une montagne par la foi, pas du tout. C'est la foi de réagir de la bonne façon quand tu es dans une situation difficile. Parce que c'est facile de dire « montagne, ôte-toi de là ». Facile de dire ça, mais quand tu es devant quelqu'un qui vient de te donner une claque ou un coup de poing ou un injure, puis de réagir en aimant ton ennemi puis en faisant du bien, il dit, quand il va revenir? Il va-tu nous voir en train de prier pour eux autres ou être en train de se défendre puis de les frapper? Il veut voir une foi en pratique qui réagit selon le Seigneur. Amen.